Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Le MUMIG, Musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grosfezinque, poursuit en 2026 son partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Chaire occupée par Nastasia Martin autour des questions d'habitabilité. Dans le cadre de ce partenariat, 3 journées d'études sont organisées pour inviter chercheurs et chercheuses, habitantes et habitants et passionnés à questionner les relations que nous entretenons avec les éléments terre, eau, air et feu dans les Grands Causses. Alors que de profondes mutations climatiques et écologiques bousculent aujourd'hui nos représentations et nos modes de vie, allant jusqu'à menacer l'habitabilité de la terre et de nos territoires, dans quelle mesure les collections muséales comme celle du MUMIG peuvent-elles aider à penser et à redéfinir les liens que nous entretenons avec les Grands Causses ? C'est tout l'objet de ces journées d'études qui s'articulent autour de conférences et tables rondes le matin, des ateliers pratiques l'après-midi et des soirées grand public où les chercheurs et chercheuses sont invités à présenter de manière sensible et performative leur rapport aux éléments convoqués. Radio Larzac est partenaire du MUMIG sur ce projet pour enregistrer et diffuser une trace sonore des échanges et des réflexions qui ont émergé lors de ces 3 journées. Vous trouvez déjà sur notre site radiolarzac.org les podcasts sur la première journée d'études consacrée à la terre et à l'eau sur les Grands Causses. Nous vous proposons aujourd'hui des enregistrements effectués à l'occasion de la 2e journée d'études qui avait pour objet l'air et le vent et qui s'est tenue à Millau le samedi 9 mai 2026. Nastasia Martin, anthropologue, et Katia Fersing, directrice du MUMIG, ont inauguré cette 2e journée d'études.
Juste peut-être rappeler donc que ces séminaires et ateliers sont co-organisés par la Sorbonne Paris 1 et donc la chaire Habitabilité de la Terre et Transition Juste que je dirige depuis maintenant presque 3 ans. Et qu'on est dans la poursuite d'une réflexion collective et pluridisciplinaire où il s'est agi d'abord d'essayer de croiser nos regards depuis des disciplines différentes sur cette question d'habitabilité qui, comme vous le savez ou du moins le sentez, j'imagine, est un mot qui est devenu un petit peu un mot valise, un buzzword au sein duquel on peut faire un petit peu rentrer tout et n'importe quoi. Donc la question principale qu'on se pose, c'est comment faire tout simplement pour vivre ou survivre sur une terre qui ne serait pas devenue inhabitable ? Comment œuvrer vers la possibilité de continuer d'habiter nos territoires et notre époque ? Mais pour ça, ce qui nous est apparu assez vite dans la première année, c'est qu'on avait besoin de reformuler les idées, les concepts, les termes avec lesquels on attrape cette question de la crise écologique et plus largement systémique. Donc il y a vraiment eu une première année de redéfinition de tous ces concepts qu'on utilise sans presque plus y penser, comme notamment ce concept d'habitabilité, mais aussi comme l'idée du climat qui, d'un point de vue, disons, moderne, occidental, entre mille guillemets, nous paraît évidente, mais qui n'est pas forcément évidente lorsqu'on l'attrape depuis les perspectives autochtones. Donc encore une fois, là, venir travailler ces mots depuis plusieurs angles et se poser la question, sont-ils toujours appropriés pour penser ces grands flux géophysiques qui se lèvent à l'heure actuelle et qui nous débordent, font effraction dans nos vies. Il y a eu ensuite tout un travail la deuxième année sur cette question de la transition énergétique. Donc je vous l'ai dit, moi ma chaire s'appelle Habitabilité de la Terre et Transition Juste. Parce qu'il y a cette idée qui est difficilement déboulonnable que pour pallier aux crises écosystémiques, nous avons à notre portée des outils techniques, technologiques que nous allons implémenter au sein de ce qu'on appelle la transition énergétique pour décarboner l'atmosphère, dépolluer nos relations au monde, etc. et faire en sorte que ce soit vivable. Néanmoins, de par, en tout cas moi, l'enquête ethnographique que j'ai menée principalement en Patagonie chilienne et sur l'altiplano du nord du Chili et en Bolivie, cette question de la transition énergétique, elle est sur le terrain très très complexe. J'imagine que ici vous aussi vous avez énormément d'exemples, et Gaëlla nous parlera de ça aussi, qui nous montre que c'est pas si simple évidemment de dire on va créer de l'électricité de manière durable et verte. Donc, il y a vraiment eu cette idée de travailler à partir d'enquêtes de terrain qui ont proposé des descriptions denses de ces projets de transition énergétique. Non pas pour les critiquer, les jeter à la poubelle, évidemment, c'est pas ça l'idée, mais pour, encore une fois, se rendre réflexif sur les solutions qui sont proposées et qui parfois, en fait, bypassent la nécessité de reprendre le chemin de la réflexion, en fait. C'est-à-dire vraiment de, encore une fois, prendre de la distance, faire un pas en arrière ou un pas de côté et ne pas plonger dans une solution qui serait d'emblée toute préparer avant d'avoir bien réfléchi. Voilà, donc ça, c'était la deuxième année. Tout ça, ça s'est passé à la Sorbonne. Et encore une fois, à chaque fois, le dispositif, c'était deux chercheuses, chercheurs de deux disciplines différentes qui venaient présenter leur perspective sur la question. Et ensuite, il y avait une discussion entre nous et avec le public. Et cette troisième année, qui était l'année qui était là où moi, j'avais vraiment envie d'en venir, c'est-à-dire l'irruption, on espère, d'autres manières transversales de concevoir ces flux géophysiques, ces puissances élémentaires. Évidemment, ça paraissait impossible de travailler ces questions depuis les salles de la Sorbonne dans un entre-soi parisien. Donc, on a eu l'idée avec Katia de se dire que ça faisait vraiment du sens de poursuivre ce travail qu'on mène depuis plusieurs années ensemble autour de ces questions et autour de la question de la mémoire aussi, et de faire quelque chose ici avec vous qui n'est pas seulement un travail transdisciplinaire et collaboratif entre chercheurs, mais aussi avec les citoyens, citoyennes, les personnes qui sont confrontées tous les jours à ces questions. Donc merci d'être là pour nous aider à réfléchir, pour vous aider à réfléchir. Qu'est-ce que, quoi d'autre ?
Et éventuellement évoquer la première journée sur la terre et l'eau, ouais. Où on a eu une première rencontre. Certains d'entre vous étaient là autour de la question du rapport à la terre et l'eau, et que c'était une sacrée expérience, justement, la journée qu'on a passée, et les réflexions qu'on a aussi mises en route. Tout ceci a été enregistré et capté grâce à la présence de Radio Larzac, qu'on remercie, et qui est là encore aujourd'hui. Donc il y aura des podcasts, ce sera rendu accessible et réécoutable sous forme de podcast prochainement. Et de la même manière, aujourd'hui, on va pouvoir garder trace de ces échanges. Et ensuite, eh bien, il faudra qu'on avance plus loin. On verra comment on avance à partir de ces matériaux-là. En tout cas, au niveau du musée, c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui, c'est important parce que ça vient nourrir ce qu'on appelle le projet scientifique et culturel de la structure. Et donc, ça permet de donner du sens aussi à la manière dont on parle de ces objets et dont on les relie, comme je le disais tout à l'heure, avec les enjeux du temps présent. Donc, on ne se réunit pas juste là pour juste réfléchir et discuter. C'est aussi des choses qui vont derrière permettre concrètement de donner forme à des dispositifs de médiation, notamment à partir du musée.
Au fil de la matinée, Malika Verlaguet, artiste conteuse, et Katia Fersing, directrice du MUMIG, ont présenté une sélection d'objets du musée et de légendes en lien avec l'air et le vent des Grands Causses. Voici la première de ces quatre présentations consacrées à l'énergie éolienne.
L'idée, c'est donc de vous présenter certains objets et d'évoquer avec vous certaines histoires, certaines légendes qu'on a pu glaner, entendre ici ou là sur le territoire, ou lire dans des ouvrages qui sont précieux. On a ici Jacques Fressinge, d'ailleurs, qui a écrit le bouquin « Les êtres de la brume et de la nuit », que vous connaissez peut-être, et sur lequel on s'appuie aussi beaucoup pour nos travaux. Donc on a voulu parler en premier lieu d'un certain rapport au vent ici sur le territoire des Grands Causses, et qui est un rapport, disons, quelque peu productif, c'est-à-dire on se sert de l'énergie du vent pour faire des choses, et on s'en est toujours servi. Donc on va vous présenter cette petite sélection d'objets qui n'est pas du tout exhaustive, hein. On est bien d'accord. Et donc on commence par ces céramiques qui datent plutôt de l'époque de la préhistoire, du néolithique. Pourquoi ? Alors rapidement, simplement pour dire que d'abord, les céramiques, quand on travaille sur la question élémentaire, c'est vraiment des artefacts qui sont à la croisée de toutes les questions qu'on se pose. C'est pour ça qu'on commence en ouvrant la session par ces photos, parce qu'elles sont à la fois le fruit de la terre et du travail de la terre et de l'eau, évidemment. Et puis, c'est le fruit du travail de l'air aussi, puisqu'il faut qu'elles sèchent ou il faut qu'elles cuisent. Et puis, évidemment, du feu, puisque la cuisson suppose qu'on les cuise. Des céramiques qu'on peut trouver au musée. Et puis, on continue sur ces céramiques un peu moins anciennes, qui sont plutôt là, datées de l'époque antique, donc de la période gallo-romaine. Ce sont des céramiques sigillées. Pas toutes, mais en tout cas celles qui sont rouges, on va dire, d'ailleurs, qui sont lisses ou qui sont décorées. Et ces céramiques sigillées, je ne sais pas si vous savez d'où vient ce mot sigillé, ça vient de sigillum, le poinçon, parce qu'elles sont toutes poinçonnées avec le nom du potier ou de l'atelier du potier qui les a fabriquées. Donc elles sont caractéristiques de l'époque romaine. J'en dis deux mots juste pour qu'on sache d'où, voilà, quel est le contexte dans lequel elles sont produites. Et donc elles se reconnaissent parce qu'elles sont souvent, voilà, elles ont une couleur brun, rouge, orangé et un aspect très luisant. Et des décors en relief qui l'ornent parfois. On en a des petits morceaux d'ailleurs ici que vous pourrez venir voir de plus près si vous en avez envie, mais surtout il y en a beaucoup au musée. Ça peut être intéressant d'aller jeter un œil au musée pour les voir.
Et puis l'entrée est gratuite, on ne l'a pas encore dit aujourd'hui.
Voilà, merci Malika parce que j'allais oublier. Ni vaisselle de grand luxe, ni céramique commune, on est plutôt sur de la vaisselle de semi-luxe, voilà. Et donc qui était une vaisselle avec des diverses formes, des plats, des assiettes, des bols, des tasses, des gobelets, et donc des formes qui sont calibrées, standardisées, et qui étaient fabriquées au 1er siècle, 2e siècle de notre ère, ici, à Condatomagus, donc Mio, l'ancienne Mio gallo-romaine, enfin la Mio romaine, et Condatomagus, ça signifie la ville du confluent. Donc parce qu'on se situe évidemment à la confluence du Tarn et de la Dourbie, mais ça on ne va pas revenir dessus, on en a beaucoup parlé pendant la journée sur la terre et l'eau. Donc il se trouve juste qu'au début de notre ère à Millau, eh bien, il y avait une production de sigillés qui était extraordinaire, et ces sigillés, elles étaient exportées aux quatre coins de l'Empire romain. Ici on avait de la terre, on avait de l'eau, on avait un savoir-faire qu'on avait importé d'Italie, mais il y avait quand même des potiers qui étaient déjà en place, et puis on a mis sur pied une véritable proto-industrie de fabrication de céramique. Donc c'était le principal centre de production de céramique. Donc l'air, évidemment, sur cette question de la céramique sigillée, eh bien, il intervient à plusieurs niveaux. Après le façonnage et l'engobage, il faut qu'elle sèche, tout simplement. Et il intervient aussi à un autre niveau, au moment de la cuisson, finalement. Elles sont cuites, ces céramiques, là c'est la technique de cuisson que je décris rapidement, dans un four qu'on appelle à tubulure. Ce sont des petites cheminées, là, c'est les petites cheminées que l'on voit sur la hauteur du four. Et ça permet d'isoler les céramiques des fumées et des gaz de combustion. Donc c'est une cuisson qui est à haute température, on monte jusqu'à 1050 degrés, et elle est dite oxydante. Donc elle va avoir une incidence sur l'aspect rouge brillant et vitrifié des surfaces des poteries. Et donc, le séchage, enfin, la question là, c'est plutôt l'air. C'est la question d'arriver à avoir une température constante au niveau de l'air pour que la céramique cuise de façon progressive. Donc, dans cette production de céramique sigillée, l'air, évidemment, on le retrouve à cet endroit-là. Et puis aussi sur la question de la fabrication des moules et sur la question du séchage des moules qui précède donc la création de ces récipients. Puisque la technique de fabrication, c'est d'appliquer à l'intérieur d'un moule, de tourner en fait l'objet à l'intérieur d'un moule qui lui-même est en relief. Et donc, on va imprimer en négatif en appliquant la terre à l'intérieur du moule. On va avoir des motifs qui sont en relief sur l'objet. Donc voilà, simplement pour dire que le moule, lui aussi, il faut le fabriquer et il faut qu'il sèche. Je vous montre juste la reconstitution d'un four antique qu'on présente donc au musée. Et ici, on a une photo des vestiges qu'on a retrouvés du four, du gros four antique donc, qui a été mis au jour par Alain Vernet et qu'on peut voir sur le site archéologique de la Groffezinck.
Ah, l'entrée est gratuite également pour la Groffezinck, vraiment. Souvent, ce qu'on a sous les yeux, on ne le voit pas, on va voir ailleurs, des musées, mais il y a beaucoup de choses à Millau.
Donc ça, c'est juste une petite photo des moules pour montrer aussi ce rapport-là à l'air dans les moules. Alors, à la même époque, donc dans un des fanums de la Groffezingue, puisque la Groffezingue, c'est l'endroit où on a ces ateliers de potiers, c'était un quartier donc, de l'ancienne Condato Magos, Condato Magus de la Millau antique, on a retrouvé, parce qu'il y a eu d'importantes fouilles réalisées depuis le 19e siècle, mais qui se sont intensifiées à partir des années 50, avec vraiment des campagnes de fouilles organisées par l'État, on a retrouvé cette petite, parce qu'elle n'est pas très grande, mais statue de Mercure. Il a été juste fini, il a été trouvé donc, dans un des fanums de la Groffezingue, un des anciens sanctuaires, donc, et il date du 1er siècle après notre ère. Voilà, il a été découvert par Alain Vernet, qui était l'archéologue en charge des fouilles et qui a été aussi le directeur du musée, etc. C'est un personnage très important dans l'histoire de la ville de Millau. Il a été retrouvé en 81.
Alors Mercure, fils de Jupiter et de la nymphe Maya, bon ça peut-être que ça vous importe peu, mais par contre, par rapport à notre thème du jour, c'est le patron de la circulation en général. Circulation des personnes, circulation des biens, circulation des messages. Il protège donc les voyageurs, mais aussi les voleurs. Il est aussi le messager des dieux, hein, entre les mortels, les dieux. Et puis, il conduit les âmes dans le royaume des morts. Donc, vous voyez, vraiment, circulation tout azimut, Mercure. Et dans l'air. Pourquoi ? Parce que regardez ses attributs. Le chapeau, là-haut, ce ne sont pas des oreilles de souris. Hein. Non, 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 Kezako, des ailes sur le chapeau. Et parfois, il a aussi des ailes derrière les chaussures. Donc, voilà, il a l'avantage de la vitesse hein, pour circuler dans l'air. Peut-être c'est un moyen de locomotion qu'on pourrait remettre au goût du jour parce que ça, c'est franchement écologique. Enfin, le chapeau ailé, les pieds ailés, on y pense peu, mais c'est bien.
Et alors, le chapeau, ça s'appelle un pétase.
Oui, alors c'est pas un gros mot. Hein. C'est ce chapeau à large bord. Voilà, les sandales ailées, tout ça.
Et ça, ce qu'il porte dans la main, c'est une bourse. Et après, on ne sait pas trop, il a perdu quelque chose.
En tout cas, il est rusé, il est habile. Parfois, il est trompeur. Et il fait des farces aux personnes peu méfiantes aussi. Et on dit, alors là c'est quand même une association d'idées un peu particulière, mais je vais vous la livrer telle qu'elle. Il est le patron des bergers, des tricheurs et des voleurs. Mais ça te permet de faire une transition sur l'agropastoralisme. Voilà.
Pourquoi parler d'agropastoralisme, évidemment, ici, sur les Grands Causses ? Ça, vous allez me dire, mais pourquoi cette photo ? Mais bon, l'agropastoralisme, vous le savez, on en a déjà aussi parlé sur la dernière session pour ceux qui étaient là, mais c'est quand même la clé de voûte de l'économie, de l'écosystème ici, depuis l'époque néolithique. Donc, on élève en particulier des ovins, des brebis, et puis avec le lait de ces brebis, on a eu fabriqué du fromage, et puis avec la peau des agneaux, on a fabriqué des gants, et donc ça finalement, et avec la laine de ces brebis, on a fabriqué aussi énormément de choses. Donc en fait, on a eu une activité à la fois lainière, mégissière, gantière et fromagère ici sur le territoire, très très importante depuis en particulier le Moyen-Âge, mais qui est très documentée, et aujourd'hui encore, ça nous tient jusqu'à aujourd'hui, cette histoire d'agropastoralisme. On a un lien très fort avec la brebis. Et pourquoi je vous montre cette photo ? Parce qu'ici, on a l'éboulis du combalou, un morceau de l'éboulis du combalou. Le combalou, c'est cette petite butte témoin, non loin du plateau du Larzac, quand on va vers Sainte-Afrique, et au pied de laquelle se dresse le village de Roquefort. Et donc, c'est sous le village de Roquefort, dans cet éboulis, que sont aménagées les caves qui permettent d'affiner le fromage de Roquefort. Et ce sont les seules caves habilitées depuis 1925 à affiner ce fromage. Et donc, on ne va pas discuter de pourquoi c'est les seules caves habilitées à affiner le fromage, c'est pas la question, mais on pourra en parler si vous voulez. Mais ce qui est intéressant là, c'est plutôt qu'à l'intérieur de cet éboulis, il y a de nombreuses failles, fractures, anfractuosités, et que donc l'air circule énormément. Et donc, on a aménagé des espaces de conservation alimentaire parce que cet air permet et favorise, bon, à la fois, il permet des conditions hygrométriques et une température qui est favorable à la conservation alimentaire. C'est un véritable frigo naturel, mais aussi, l'air qui circule permet d'accélérer ou de ralentir l'affinage du fromage. Et ça, c'est tout l'art des habitants de Roquefort qui sont, avec le temps, devenus ce que Didier Ossibal nomme les cueilleurs de vent. Donc, ce sont des personnes qui jouent avec l'air qui circule dans les boulis par différentes techniques et qui, donc, s'assurent que l'affinage du fromage se fait correctement. Donc, on a, à cet endroit-là précisément, un rapport à l'air qui est hyper intéressant et qui ne date pas d'hier. Ça va, Malika ?
Ah, moi, ça va, oui, oui. Alors, Florine, ça vient d'où, ce mot ?
Alors, Florine. Mais Florine, en fait, c'est un trou souffleur. En occitan, justement. On dit que cet éboulis, il est parsemé de fleurines. Mais on en trouve partout ailleurs sur le Causse. Il n'y a pas que cet endroit-là qu'on trouve des fleurines. Mais en tout cas, ces failles à l'intérieur de la roche, on les appelle des fleurines. Donc, ce que vous voyez là, ce sont les quilles des Baragnodes sur le Combaloum. Il faut imaginer qu'en dessous, c'est un peu la même ambiance, quoi. Voilà.
Et il y a des fées.
Il y a quelques fées qui circulent.
Oui,
ouais.
Alors, vous avez... voilà. Ceux qui étaient là la dernière fois, on en a pas mal parlé, mais elles sont là aussi. Les fées, il y a plusieurs légendes autour des fées à Roquefort, on en a déjà parlé, mais il y a aussi la société des caves qui s'est emparée de ce thème pour leur marketing. Alors c'est intéressant parce qu'on trouve ce genre d'informations. À Navéron, on raconte encore aujourd'hui que certaines de ces caves abriteraient un mystère qui donne au fromage un goût féerique. Donc ça, moi, je ne travaille pas pour Roquefort, d'accord ? C'est vraiment, ça s'est rentré dans l'imaginaire local. Si les caves Baragnodes doivent leur nom à la langue d'oc, dans laquelle Baragnodes signifie fée, c'est parce que des êtres de légende auraient élu domicile dans leur fleurine. La nuit venue, à l'abri du regard des maîtres affineurs sociétés et des murmures des visiteurs, ces fées ailées au pouvoir bienfaisant donneraient au Roquefort, société cave Baragnodes, son goût si délicat et son parfum légendaire.
Et l'entrée n'est pas gratuite, hein, par contre, dans les caves sociétés. Donc, mais bon, il y a d'autres histoires de fées à Roquefort. Et donc, les fées, elles circulent dans les boulis. Il est clair qu'elles sont là bien avant que Société des Caves décide qu'elles y soient. Donc, important que, voilà, qu'on les nomme. Pour continuer sur la question de l'agropastoralisme, dans notre versant des pratiques agropastorales, il y a derrière l'élevage, je l'ai dit tout à l'heure, la mégisserie et la ganterie. Donc la transformation des peaux d'agneaux en matériaux utilisables pour faire des gants. Et donc la question de l'air entre aussi en jeu dans le processus de transformation des peaux chez les mégissiers, puisque après moult opérations de trempage, il y a des tas d'opérations qui sont réalisées, on met les peaux à sécher avant qu'elles continuent à être transformées. Il y a la teinture ensuite qui va suivre, etc., etc. Donc c'était aussi pour rappeler que la question de la sèche des peaux est très très importante dans le processus de...
Et attends, parce que moi je voudrais parler des fées.
Eh oui.
Eh ben oui, par rapport au séchage, alors elle ne sèche pas le cuir mais le linge. C'est prouvé à plusieurs endroits. Alors, on l'a dit, il y a M. Fressinge ici qui a collecté plein de gens dans les années 70-80, on peut le dire, Jacques. Hein, voilà. Et qui a la générosité en ce moment de me transmettre tous ces collectages. Donc, hein, vous ai récolté deux petites pépites par rapport au travail des fées qui lavent le linge et ensuite le font sécher. Et par exemple, Madame Haché de Saint-Jean-du-Bruel, en 1979, a confié à Jacques qu'il y avait des rochers au-dessus de Saint-Glaise, pas si vous les voyez, ça, au-dessus de la maison de Scipion, c'est précis. Il paraît que là, les fées étaient logées là-dedans, dans ce rocher. Et, j'ouvre les guillemets, quand elles étendaient le linge, c'était quelque chose de miraculeux, ce linge blanc, et tout le monde regardait ça. On retrouve ça dans la vallée du Tarn, vers Rivière-sur-Tarn, Madame Boyer en 1980. J'ai peut-être arrêté de dire les dates, Jacques, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se disait. À Fontanelle, il y a le rocher des Fadarelles, et les fées faisaient la grande lessive une fois par an, et elles étendaient au soleil le linge blanc. Katia, toi, tu avais récolté quelque chose qui parlait du roc de Suège. Ou pareil, hein, les fées étendaient leur linge. Et à chaque fois, c'était un grand spectacle de voir tout ce linge blanc sécher sur les rochers.
Ouais, et il y avait souvent la lune aussi qui
oui, c'est ça.
Renforçait la blancheur du linge.
Tu veux que je lise l'extrait de... On n'a pas le temps.
Non, peut-être qu'il faut qu'on avance simplement pour aller au bout
Mais tant pis.
Non, mais tu veux ? Non,
non, mais si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. C'est sérieux, il y a le gant qui arrive.
Oui. C'est ça, avec des plumes, tu as vu, c'est pour ça que je l'ai choisi celui-là. C'est simplement pour vous dire que le gant, bah, lui aussi, quelque part, quand on fabrique un gant, et depuis aussi fort longtemps, on s'en sert pour se protéger. Donc c'est une protection contre le froid ou contre l'air froid. Voilà, petit clin d'œil au gant. Si on sort des objets du musée, on a aussi sur le territoire un ensemble de patrimoine bâti, qui est liée à l'agropastoralisme. Et ici, on peut voir, par exemple, la buissière qui se situe à Potensac, sur le Larzac, et qui permet, et qui permettait, et qui permet toujours, hein, de traverser le Causse en réalité en étant à l'abri du vent. Donc, c'est un moyen de se protéger, soi ou les troupeaux. Mais donc, ce sont des chemins arborés avec du buis, qui sont donc construits comme ça avec du buis. Et certaines sont très, très anciennes. Et il y en a énormément. Et puis, on a aussi sur cette photo, bon, c'est Didier Ossibal qui, je vous en parlais tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé sur Roquefort et autour des cueilleurs de vent, qui était architecte au parc régional des Grands Causses. Didier Ossibal, il est dans une caselle. Et une caselle, c'est aussi une construction réalisée par les bergers, notamment sur le Causse, on en trouve pour se mettre à l'abri du vent, pour se protéger du vent. Donc il y a aussi cette notion de protection dans la question de la garde des troupeaux. Et puis, un autre élément du patrimoine bâti qui revient, alors moins que les caselles et les buissières, mais on a quand même des moulins. Voilà. On les trouve où alors, Malika?
Alors, bah, nous, on en a identifié trois, mais il y en a peut-être plus. Ouais. Celui-là, il est à la Couvertoirade. C'est le moulin de Redounel. Puis, il y en a un à Saint-Pierre-de-la-Fage aussi. Et puis, il y a celui sur le Cosmé-Jean, le moulin de la Borie. Alors, ce sont des ouvrages qui ont tous été restaurés. Et même pour celui du Cosmé-Jean, on y fait fréquemment de la farine. Celui-là aussi, de temps en temps. Et donc, moi, j'avais envie de vous parler du moulin et du meunier et de la meunière, parce qu'on n'a pas de légende ici. Enfin, en tout cas, on n'a pas récolté. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas sur les moulins avant. Il y a les moulins à eau, oui, mais pas avant. Et par contre, moi, tout de suite, ça m'a évoqué des chansons. Des chansons traditionnelles, en fait, qu'on appelle les moulinières. Ce sont celles qui mettent en scène les meuniers, les meunières et les moulins. Et il y a toujours un contenu équivoque dans ces chansons. Même, alors, vous regarderez si vous avez des enfants, les CD avec les comptines. En général, s'il y en a une qui parle du moulin, elle est coquine. Alors, c'est un peu édulcoré, mais c'est toujours ce thème de la femme qui va au moulin avec son âne pour faire moudre son grain. Et puis là, eh ben, en fait, pendant que le grain se fait moudre, hein, eh ben, elle se fait moudre d'une certaine manière par le meunier.
Et oui.
Et pendant ce temps, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il mange l'âne. Et alors, ah mince, alors, qu'est-ce qu'il va dire à mon père ou mon mari, hein, ça dépend les versions. Donc, eh ben, là, le meunier, il donne des sous à la meunière pour qu'elle aille s'acheter un âne. Et là, forcément, il n'y a pas exactement le même âne, quoi. Ça ne se fait pas en série, les ânes. Donc, elle prend un âne approximativement de la même couleur. Mais bon. Et donc, quand elle rentre chez elle, le père ou le mari dit « Mais tu te fous de moi, ce n'est pas notre âne, ça. » Elle dit « Mais tu ne sais pas, pauvre idiot, que les ânes changent de peau. » Voilà. Et donc, cette chanson, elle est sur les CD de mon gamin. Voilà. Et dans le répertoire occitan, elle est aussi. Alors, je vous en fais un petit extrait, hein, pour la savourer.
Vas-y, vas-y.
Mais juste le passage qui dit « Del tenquel un mouli moulio, lo mouligne la morfasio, sul sax de la farina, ei patapum, sul sax de la farina, ame la mariu. » Traduction, hein, donc c'est le moment où... Pendant que le moulin meulé, on dit meulé, moulin meulé, le moulinier faisait l'amour sur les sacs de farine, et patapoum, avec la mariou. Voilà. Et donc, si vous voulez, on a l'intégrale de ces chansons sur le site de l'IOA de l'Aveyron. Vraiment, si, il y en a plein des moulinières comme ça. Et le meunier, c'est toujours une figure un peu frivole comme ça. Je me dis, peut-être le côté de brasser l'air, enfin, je sais pas. En tout cas, c'est aussi quelqu'un un peu de très indépendant et mystérieux parce qu'il maîtrise une grosse machine, il maîtrise les éléments, cette grosse machine qui fait partie du paysage. C'est des gros géants, les moulins, des gros géants du paysage. Quand même. Voilà. Et donc, le meunier et la meunière, ils ont toujours des mœurs assez légères, voilà, très, très aériens, quoi.
Et est-ce qu'on pourrait parler aussi, pour terminer et pour faire le lien avec la question des céréales qu'on va moudre au moulin, du ventage, peut-être, tu sais?
Il y a aussi une pratique, bon, ça se fait moins, hein, de mettre au vent le grain. Et en fait, on utilise le vent comme un auxiliaire, comme ça, on met tout le grain sur l'air, et puis on soulève avec des pelles, avec des trucs, et on soulève, et le vent, il enlève les petites busquettes, et c'est lui qui fait le boulot. Nous, on n'a qu'à soulever et lui, il emporte ce qui gêne, quoi.
Ouais, ça, on le faisait. Puis après, on a utilisé des ventailles.
Ou des ventadous, ça dépend.
Des ventadous, ouais. Des machines, en tout cas, mécaniques pour faire ce travail-là. Donc, on a moins sollicité le vent.
Mais ouais, bon, mais quand même, il y passe.
Quand même un peu.
L'air, il y passe.
Il y passe. Ouais. Voilà, on pourrait aussi vous parler des noms de vent et des dictons qui s'y rapportent, mais ça, il faut qu'on le fasse très vite, hein, parce que je crois qu'on a, on a épuisé notre temps.
Le vent du nord, et ben, qu'est-ce qu'il fait ?
Il assèche.
La bise et le cookie s'élèvent toujours matin.
Ouais.
Ouais, la bise et le coquin s'élèvent toujours matin.
Mais le vent du nord, c'est la bise, ouais. Ouais. Ça, on le sait.
Et le vent du midi ?
Et ben, il remouille.
Et ouais, c'est ça, il remouille. Il est froid au corps, mais chaud pour la terre.
Il fait gonfler les graines.
C'est sa grand-mère qui
et les fromages.
Voilà, et il rend fou les bêtes et les humains.
Ouais. Et puis, s'il y a du vent du midi pendant 3 jours, ça veut dire qu'il y en aura pendant 6 jours, et puis certainement pendant 9 jours. Hein.
Ouais, si on dépasse le 3, c'est la règle des 3-6-9. Mm. Il y a aussi ben de la nuit, pas au pas ou puetch. Ouais. Ça veut dire que le vent de la nuit, il s'arrête à midi.
Ouais.
Par contre...
Le ben des jours, il dure 9 jours.
Ouais, voilà. Voilà. Bon, celui-là, il est coriace. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on l'appelle aussi le vent d'automne, le vent du midi. Est-ce que c'est bon, ça ? Parce que c'est très local, et ça, le vent d'automne, ça peut être autre chose ailleurs. Et la brise d'été, celle-là, elle est bien ?
Alors, ma grand-mère, elle dit, en général, on n'aime pas trop ça, le vent, sauf la brise d'été qui souffle quand il fait chaud. Alors, on est bien, c'est agréable au corps.
Et puis, il y a ce fameux proverbe en français.
Souffler à décorner les bœufs.
Voilà. Et en occitan, c'est buffa à descueta lousazes. Enlever la queue des ânes. Voilà, c'est deux imaginaires différents.
Et puis ici, il y a le vent d'ouest et c'est le principal néanmoins, d'après ce que dit ma grand-mère. Voilà. Et puis dans la toponymie, beaucoup de toponymes, mais beaucoup moins que ce qu'on a pu voir sur la question de la terre et l'eau néanmoins.
C'est tout ce qui buffe.
Voilà.
Il y a les buffas, le buffarel, on voit tout ce qui est autour de buffe.
Oui, je regarde buffairel aussi. Bon, ça c'est la même chose.
Il y en a plein, mais il faut qu'ils regardent sur une carte. Hein.
Oui, ils iront
buffal,
voir. Voilà.
Tout ce qui buffe.
Et bentouzel aussi.
Ah oui, on peut.
Donc ça, c'était un petit tour d'horizon sur la question de l'énergie éolienne.
Bah, qui ?
Vous venez d'entendre Malika Verlaguet et Katia Fersing qui ont présenté un corpus d'objets et de légendes, un lien avec le vent et l'air des Grands Causses, à l'occasion d'une journée d'études sur ces sujets dans le cycle À la lisière des mondes. Voici le deuxième corpus d'objets et de légendes portant sur le souffle.
On va juste faire un intermède, un retour vers nos objets, vers nos histoires. Et on va aussi parler de la disponibilité de l'air, mais sous un autre angle, qui est plutôt le souffle et le corps aussi. Ça fait aussi écho à ce que Gaëlla nous a présenté. Et pour commencer à parler du souffle et du corps, on voulait vous présenter cette flûte néolithique qui date de 2500 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère, et qui provient de fouilles qui ont été réalisées à l'abri de Veyraud, sur le Causse Noir. Elle n'est pas au musée de Millau, elle est à la Cité de la Musique à Paris. Donc si vous voulez la voir, il faudra aller là-haut, à moins qu'on la fasse revenir, comme beaucoup d'objets qu'on aimerait bien faire revenir dans nos collections. Mais c'est intéressant parce qu'en tout cas, c'est une flûte qui a été faite en os de vautour. Bon, ça fait pas partie des plus anciennes flûtes qu'on connaisse, parce qu'il y a des flûtes, par exemple en os de vautour, qui ont été retrouvées à Hollfels dans le Jura, en Allemagne, et qui datent de 35 000 ans, d'après les archéologues. Hein. Donc, c'est pas une flûte finalement très ancienne à l'échelle de ce qu'on connaît du rapport à la musique de l'humanité, mais quand même, on est très fiers de cette flûte en os de vautour. Et puis, un peu plus récemment aussi, et celle-ci, vous pouvez la voir dans nos collections, on a cette sorte de trompette en céramique qui date de l'époque gallo-romaine et elle provient d'un sanctuaire aussi du site archéologique de la Groffe Zinc. Ça, c'est un objet assez unique en son genre, il y en a peu.
Alors, pour tout ce qui est le légendaire autour de la musique, la principale histoire qui circule ici et plus largement dans les territoires autour, c'est celle d'un musicien qui revient d'une noce. Et pour le payer, on lui a donné une fosse. Et donc, il a son instrument. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a soit le violoneux, soit le cabretaire. Alors, le cabretaire, au niveau air, hein, c'est ça. On est dans le sujet. Bon, violon, ça fait vibrer l'air aussi. Enfin, bon, on a décidé que c'était dans le sujet. Mais en tout cas, cette histoire, vous pouvez la retrouver à plein d'endroits. Et donc, il marche, il rentre chez lui. C'est loin, c'est la nuit. Mais il fait un long trajet à pied la nuit, c'est pas un problème. Il a sa fosse sous le bras et son instrument sous l'autre bras. Et tout d'une coup, il sent que quelque chose le suit. Il se retourne et là, il y a deux yeux dans la nuit. Le loup l'a suivi. Et alors là, l'homme, il a senti que sa vie était menacée. Bon, déjà, parce que la peur du loup était déjà cultivée depuis longtemps. Et puis bon, il était très très près quand même. Et apparemment, il avait très très faim, donc il a commencé par lui escamper des bouts de foisse comme ça. Et alors le loup, il a attrapé premier bout de foisse, hop, engoulite. Deuxième bout de foisse, hop, engoulite. Bon, au bout d'un moment, tout a une fin, même la foisse. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Il n'était pas encore arrivé chez lui. Et ben, ce qu'il a fait, c'est que dans un élan de désespoir, il s'est dit qu'il allait jouer une dernière fois un morceau de musique. Alors, vous prenez l'instrument que vous préférez, soit le violon, soit la cabrette. J'aimerais bien faire un sondage pour savoir si vous préférez le violon ou la cabrette, mais on n'a pas vraiment le temps. On en parlera tout à l'heure. Et ben, il a joué. Et à ce moment-là, eh ben le loup, il est parti. Bon, ça se comprend, parce que quand même, la cabrette, ça déménage. Mais il y aurait pensé avant, il aurait gardé la foisse.
Il l'a fait pour la fois d'après, sûrement.
Donc peut-être que ça servait déjà à charmer les bêtes sauvages.
Oui.
C'était notre idée l'autre jour.
C'est vrai, on ne sait pas vraiment. Et puis après, concernant le souffle, donc il y a ces exemples d'instruments qui sont assez rares. Hein, et dans nos collections, on a peu d'instruments de musique. Par contre, ce qu'on a et qui est vraiment très important, c'est la voix d'une cantatrice rouergate qui s'appelle Emma Calvé, qui a été célèbre et qui a voyagé pour chanter dans le monde entier à la fin du 19e siècle et au début du XXe siècle, et autour de laquelle d'ailleurs Justine, qui est présente ici, a réalisé un spectacle incroyable qu'il vous faut voir à l'occasion. Et donc Emma Calvé, elle avait une voix, une tessiture très particulière, et elle pouvait passer de sonorité très basse à sonorité très aiguë. Peut-être on pourrait vous faire écouter un tout petit extrait si vous avez jamais entendu la voix d'Emma Calvé. Ça pourrait continuer.
Alors là, c'est pas en occitan, mais elle aimait beaucoup chanter en occitan.
Oui, c'est vrai. On aurait pu choisir un morceau en occitan. En tout cas, elle avait vraiment cette idée que le corps était un instrument. Et c'était pour vous donner voilà, un aperçu de cette voix incroyable qu'elle avait. Et donc, la voix, le vent, l'air, ça c'est un des objets d'Emma Calvé qu'on conserve au musée. Et encore une fois, vous pouvez venir voir tout ça. Là, les objets ne sont pas montrés. On est en train de refaire un peu la salle Emma Calvé, mais bientôt, ce sera possible de découvrir tout cela. Ici, un éventail d'Emma Calvé qui a été intégré aux collections il y a quelques années. Maintenant, mais on vient d'avoir un don récemment de la Société des Amis d'Emma Calvé et de l'Association des Amis du Musée.
Vous venez d'entendre la présentation d'un corpus de légendes et d'objets du Musée de Millau et des Grands Causses par Katia Fersing, directrice du MUMIG, et Malika Verlaguet, artiste et conteuse en occitan, autour du souffle. C'était dans le cadre de la journée d'études d'air et de vent qui s'est déroulée à Millau le samedi 9 mai 2026 en partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin. Retrouvez prochainement sur Radio Larzac la présentation des prochains corpus, des conférences et des échanges qui se sont déroulés à cette occasion. Vous pouvez retrouver cet enregistrement et tous les autres en podcast sur radiolarzac.org. C'était Dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac, en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.